Bonjour tout le monde. Plein de petites choses à installer au début. Désolé, ça sera pas long. Voilà. Bon, je pense que vous voulez ça. Alors, bonne fête des pères à tous les papas ce matin. Peut-être des fois, malheureusement, il y a des mères aussi qui ont dû faire les deux rôles. Alors, bonne fête à vous aussi, si c'est le cas. Ce matin, j'ai décidé de vous parler d'un père, justement. J'ai dit que ça serait circonstance. Le père Abraham, que les Juifs appelaient père Abraham, hein? Notre père Abraham et tout ça, quand Jésus, entre autres, parle de... au niveau de que le père du mensonge, et ce sont les fils de Satan et tout ça, puis eux autres, non, on a Abraham pour père, etc. Paul aussi, dans Romains 4, il donne l'exemple d'Abraham, ce qu'on appelle le père de la foi. Pourquoi? Parce que c'est le premier qu'on mentionne qui était justifié par la foi. Donc, j'ai pensé que c'était de circonstance de parler de lui ce matin. Mais plus particulièrement, une épreuve qu'il a vécue en tant que père. Alors, allons-y avec ça. On commence avec Genèse 22. Genèse 22, ceux qui connaissent le chapitre, fameuse histoire d'Isaac, Abraham avec Isaac. Alors, voici ce que ça dit dans la Louis II. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham! » Et il, Abraham, répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Ça commence raide, hein? Mais pour bien comprendre ce qui se passe ici... Pour bien comprendre l'ampleur de ce que Dieu demande à Abraham, il faut revenir un petit peu en arrière. Fait qu'on va revenir avant ça un petit peu. La Bible commence, la première fois qu'on entend parler d'Abraham, c'était dans Genèse 11, mais c'est juste la généalogie. Donc, la première fois qu'on a une interaction avec Abraham, c'est au chapitre 12. Et dès le chapitre 12, il se passe quelque chose de spécial. L'Éternel dit à Abraham, oui, vous avez bien lu, Abraham. Au début, il s'appelait Abraham, avant de s'appeler Abraham. Abraham, vous savez pas bête, peut-être que les noms hébreux, il y avait souvent des significations. Donc ici, Abraham, ça vient probablement de Abba, père, que vous avez déjà vu peut-être dans le Nouveau Testament. Abraham, ça veut dire père élevé. Alors même son nom, hein? Il y avait le nom de père. Un peu spécial. Il dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc, Abraham avait déjà déménagé, il avait suivi sa famille, il avait son épouse, Sarai, et il avait quand même pas mal de richesses, déjà à cette époque-là. Et là, Dieu, ce qu'il lui demande, c'est « Va-t'en de là. Va dans le pays que je vais te montrer. » Notez qu'il n'a pas dit « Va à tel pays. Va dans le pays que je vais te montrer. » Il ne sait pas lequel à ce moment-là. Et quitter sa patrie, quitter son pays, ça veut dire quitter sa famille, ça veut dire quitter tout son héritage aussi. Tout ce qu'il connaissait. Peut-être une partie de ses richesses même. Parce qu'il s'y possédait des terres, des choses comme ça. C'est de quitter tout ça qu'il a demandé de faire. Si je continue au verset 2, j'ai oublié de changer le verset, mais en tout cas, c'est verset 2, 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Donc, la promesse d'une postérité déjà là. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Assez spécial rendu là. Parce que si on reculait au chapitre 11, ça nous a dit une chose bien importante. Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant, son épouse, et lui bien sûr. Ça nous dit aussi plus tard qu'Abraham avait 75 ans à ce moment-là. Il n'y avait pas d'enfant. Et là, ce que Dieu lui dit, c'est « Va-t'en de là et je vais te rendre prospère. Tu vas avoir une descendance nombreuse. » À 75 ans. Qui s'imagine ici à 75 ans, monsieur, d'avoir des enfants encore? On a vu des fois des personnes assez âgées avoir des enfants. Hein? Ce qui est un peu plus rare, c'est qu'on ne dit pas là, c'est que Sarah, elle avait 10 ans de moins. Donc, 65 ans. Mesdames, 65 ans, avoir des enfants?
Oui, non.
Non? Hein? C'était peut-être un petit peu différent à l'époque, mais quand même. Ce qu'on peut se dire, ce qu'il s'est peut-être dit lui-même, hein, c'est, regarde, si ça voulait, je l'aurais eu avant. Hein? C'est pas rendu à 75 ans, 65 ans pour Sarah, qu'on va commencer à en avoir. Et pourtant, Dieu lui demande de faire ça. La seule chose qu'on sait du contexte, c'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament, dans Hébreux. Hébreux nous mentionne ce récit-là aussi, dans chapitre 11, verset 8. Oups, je pense que je ne l'avais pas écrit. OK, je pense que j'avais écrit. Donc, il promet une descendance. Et puis là, ce qu'on sait, tout simplement, c'est que la suite du récit, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot, son neveu, il est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, comme je disais, lorsqu'il sortit de Charan, ou Charan. Donc, 75 ans, sa femme, 65, on va l'apprendre plus tard un petit peu, il y avait 10 ans d'écart. Donc, Abraham y obéit, sans savoir, comme disait Hébreu, sans savoir où il allait. On continue. Donc, la première fois qu'il y a eu la promesse, chapitre 12, à 75 ans. On continue, chapitre 13. Dieu apparaît encore à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, c'est ce qui s'est passé entre les deux récits, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi. » Donc, le nord et le sud, dans le fond. « Vers l'Orient et vers l'Occident, de chaque côté, tout autour de toi, autrement dit. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Encore faut-il avoir une postérité. Hein? Donc, il lui répète la promesse qu'il va avoir une postérité. Il dit au verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ce n'est pas une petite promesse, là. Tu vois, une postérité, une descendance aussi nombreuse que la poussière. Plus tard, il dit aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel aussi. Alors qu'il n'y avait pas encore d'enfants. 75 ans passés, on ne sait pas c'est combien de temps après. Peut-être dans la même année, peut-être plus tard. Toujours pas d'enfant. Et je ne sais pas si vous savez, hein, mais à l'époque, les enfants, c'était probablement le bien le plus précieux. Je pense que ça l'est encore aujourd'hui pour moi, mais en tout cas. C'était pas juste la main-d'œuvre, c'était l'héritage, c'était ce qu'on laissait après ça. Une femme pas d'enfant, c'était la honte. C'était la honte. Si une femme voulait être bénie, puis vous allez le voir plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, les femmes priaient pour avoir des enfants, puis c'était quasiment la risée du peuple, ça n'avait pas d'enfant, quoi que ce soit. C'est important. Et là, lui, il n'a pas attendu deux semaines, là. Il est à 75 ans. Et il n'a toujours pas d'enfant. « Ça continue, on arrive au chapitre 15. Toujours la même chose. Une autre apparition, une autre promesse. La même promesse qui est renouvelée, je devrais dire. Abraham répondit, cette fois-ci, Abraham, le salut, Dieu le salue, dans le fond. Et là, Abraham commence à avoir des petits interrogations. Hein? Seigneur, tu m'as demandé de partir. Ça fait X temps. Tu m'as promis une descendance, ce qui est assez particulier, disons-le comme ça. Mais comment de temps faut pouvoir j'attendre, là? Ça fait probablement déjà quelques années à ce moment-là, là. Et là, Abraham commence à dire, tu veux me bénir, tu me promets des choses, mais ça se produit pas. Abraham répondit quand le Seigneur l'a appelé, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Probablement, tu sais, serviteur qui était haut placé. Donc, à l'époque, ceux qui n'avaient pas d'enfants, c'est ça qui se passait. Ils donnaient l'héritage à une personne au placé dans sa maison, peut-être dans sa famille autour. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Et je vous pose la question ce matin, est-ce que ça vous est déjà arrivé que Dieu fait une promesse, que vous priez, que toutes les choses se placent. Wow! OK, le Seigneur répond. Et la réponse finale, elle attend. On sait qu'elle va être là, on la voit, là, mais elle attend. On vit un peu ça avec le terrain, hein? Dans le conseil. Ça fait un an et demi qu'on est là-dessus, qu'on travaille là-dessus. Et le Seigneur, il a ouvert toutes les portes, mais là, voyons, on dirait que le dernier petit bout, ça bouge pas, pour X raisons. On connaît pas toutes les circonstances, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Et là, Dieu continue. Là, c'est Dieu qui répond à ça. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui, Éliézer, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. En d'autres termes, tu auras un enfant à toi. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Renouvelle la promesse encore une fois. Les années passent. Le Seigneur promet. Il ne le voit pas encore. Le Seigneur continue à promettre. Et Abraham, verset 6, eut confiance en l'Éternel, qui de lui imputa à justice. Imputer, c'est mettre au compte d'eux. Hein? Et c'est le verset que Paul va servir justement dans Romains 4 pour parler de la justification par la foi. On est justifié par la foi seulement, pas par les œuvres. Abraham, il n'a rien fait, là. Il a juste cru. Il a eu confiance à Dieu. Même si les années passent. On prie nous autres des fois, puis ça prend une semaine, deux semaines. On ne voit pas la réponse, puis on commence cette année. Dans notre monde de instantané, hein, micro-ondes, courriel, tout ça, tout est instantané. Fait que si on n'a pas la réponse tout de suite, là. Abraham, il avait plus que 75 ans, mais ça fait déjà probablement des années que Dieu a fait la promesse. Et il ne voit pas arriver encore. Mais Dieu renouvelle sa promesse et Abraham décide de croire. Il décide de faire confiance à Dieu. Comme j'ai écrit ici, malgré toutes les circonstances contraires à ce qu'il voyait, le Seigneur continuait à lui promettre une postérité et il a mis sa foi en lui. Il ne s'est pas fié à ce qu'il voyait. Il ne s'est pas fié, comme disait Hébreu, à son corps qui est usé ou quoi que ce soit. Le corps de sa femme qui était usé. Il a cru Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, tout a été facile. Pas de même, ça marche avec Dieu. Hein? Ce serait le fun, hein? On devient chrétien, puis oups! Ah, le paradis est là, sur terre. Tout est facile. Il y en a qui pensent ça, hein? Il y en a qui pensent que, hop, maintenant, on n'a plus de problème de santé, plus de problème d'argent, plus de problème de quoi que ce soit, là. On est rendu maintenant des fils de roi, puis let's go, on vient roi. C'est pas celui-là que je connais, moi. J'ai pas vu ça Jésus des disciples non plus. C'est pas ce qu'ils ont vécu sur la terre, hein, à ma connaissance. Non, pas de même que ça se passe, hein, tout à fait. Le temps continue à passer. Les années continuent à passer. Tellement qu'à un moment donné, Sarah, sa femme, se dit, ben, regarde, on n'a pas d'enfant encore. Le temps passe. Le Seigneur nous a promis une postérité. Fait qu'on va faire de quoi? Prends ta servante, puis va avec elle. Et par elle, vu que c'était la servante de Sarah, ben, je vais pouvoir avoir des enfants, une postérité. C'était quelque chose de commun à l'époque. C'est pas quelque chose qu'il venait d'inventer, là. Donc, Abraham, c'est logique. C'est bien logique. Peut-être que c'est ça que Dieu veut faire. Hein? Peut-être que par cette façon-là, je vais pouvoir accomplir la promesse de Dieu, dans le fond. Hein? C'est peut-être ça que Dieu veut. Il m'a promis un fils, mais il n'a pas dit comment. Hein? Et c'est peut-être le sentiment qu'on a des fois. Hein? Avez-vous des fois ce sentiment-là qu'on a besoin d'aider Dieu un petit peu? Aider, entre guillemets? Hein? La réponse n'arrive pas assez vite à notre goût. Ou de la façon qu'on veut. Fait qu'on va aider Dieu un petit peu. Seigneur, tu as besoin d'aide. Hein? On va lui donner un petit coup de main. Fait que là, on commence à trouver des solutions. Parce qu'on n'a pas de solution. Dieu ne nous en donne pas, fait qu'on commence à en trouver. On trouve des solutions. Si ce n'est pas des solutions qui viennent de Dieu, bien, automatiquement, c'est des solutions humaines qui viennent de nous autres, qui sont parfois très logiques. Je suis un gars logique, moi, j'aime ça trouver des choses logiques. Mais pas parce qu'il est logique que ça vient nécessairement de Dieu. C'est pas parce que ça ne vient pas de Dieu de façon directe que c'est mauvais, nécessairement, toujours. Dans ce cas-ci, ils ont eu un fils, Ismaël. Et Dieu l'a béni, son fils. Dieu a une postérité. Par Ismaël, Abraham, il a une postérité nombreuse aussi. Mais ce n'était pas celui-là, le fils de la promesse. Dieu l'a même rejeté. Et même, il y a eu des conséquences à tout ça, à cette désobéissance-là. Parce que les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac ont été en guerre depuis ce temps-là. Encore aujourd'hui, descendants d'Ismaël, c'est les musulmans. Musulmans et juifs, pas très bon terme si vous regardez au Moyen-Orient. Donc, il y a eu des conséquences à vouloir faire les choses à sa manière. Mais dans sa tête, ça valait logique. Ça nous arrive peut-être nous aussi. On a peut-être même des exemples dans notre tête pendant que je parle. Hein, on essaye d'aider Dieu. Et ça n'a pas nécessairement été pour le mieux. Ça ne veut pas dire de rester les bras croisés à rien faire, nécessairement, mais s'assurer d'attendre le temps de Dieu, puis d'aller dans la direction que lui veut aller. C'est pas toujours facile, puis c'est pas quelque chose que moi, personnellement, je parle de moi, j'ai naturel. J'aime ça trouver des solutions, puis j'aime ça quand ça va vite. Je suis pas un gars patient. Donc, c'est mon style un petit peu, là, mon petit Abraham et Sarah, là, de trouver des solutions. On va trouver des solutions logiques. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit ça, ça, ça? OK, on va faire ça. Sans nécessairement attendre la réponse de Dieu. Il ne faut pas oublier, dans ce cas-ci, le temps commençait à presser. À la fin du chapitre 15, ça nous dit qu'Abraham est maintenant rendu à 90 ans. Si vous faites un petit calcul, ça fait 15 ans que Dieu l'a appelé, qu'il a quitté son pays, puis qu'il a promis qu'il y aurait une postérité. Qui aurait attendu tout ce temps-là? Après 2 jours, on est tanné de prier pour changer de requête. Hein? Ça fait 15 ans déjà. Et comme on dit, à bon québécois, il ne rajeunit pas. Si c'était difficile à 75 ans, imaginez-vous à 90. Seigneur, il me semble que c'est long. C'est long. Donc, on continue. On saute au chapitre 17. Au chapitre 17, ça nous dit à un moment donné qu'Abraham, il a maintenant 99 ans. 9 ans encore. Un autre 9 ans d'attente. Ça fait 24 ans qu'il attend. Ouf, on pourrait dire ça fait même 75 ans peut-être qu'il attend, mais ça fait au moins 24 ans qu'il a eu la promesse. Ça fait 24 ans qu'il a eu l'assurance, la promesse de Dieu directement. Et il n'a toujours pas vu la réponse de ses yeux. Il continue à avancer par la foi seulement. Et il apparaît encore. Il dit, c'est l'Éternel, ça qui parle. Dans le fond, il est apparu sous forme d'être humain à ce moment-là. Il dit, voici mon alliance. Non, c'est pas tout de suite, excusez. C'est une autre apparition. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Si vous vous rappelez, ça voulait dire père élevé. Mais ton nom sera Abraham. C'est là que son nom change. Car je te rends père d'une multitude de nations. C'est ce que Abraham veut dire, père d'une multitude. Ça fait 24 ans qu'il a fait la promesse. Et là, il lui dit aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus père élevé, tu vas t'appeler père d'une multitude. Ça prend de la foi. Ça prend de la foi, là. À 99 ans, dire que je vais avoir un enfant, quand ça fait 24 ans que tu attends, ou 75 ans que tu attends, ou plus. Et là, il change même son nom pour dire, regarde, ça va arriver. On va t'appeler père d'une multitude. Pas père de un, père d'une multitude. Wow! Abraham en voulait juste un, hein? Il y en a eu plusieurs en passant la fin de sa vie, il y en a eu d'autres enfants. Dans la suite de ce chapitre-là, même, il établit un signe, la circoncision, qui est un signe d'alliance entre lui et Dieu. Comme de quoi qu'ils font alliance ensemble. Donc, il change son nom, il établit un signe d'alliance, et Abraham obéit. Il aurait pu dire ce qu'on s'aurait peut-être dit, hein? Hey, ça me fait le clown, là, ça fait 24 ans que j'attends, là, ça se passe pas, là. Je commence à être un petit peu tanné, là. Moi, tu finis par le voir, cet enfant-là. Hein? J'ai même eu Ismaël, ça a l'air que c'est pas lui non plus. Ça bouge pas vite. Puis c'est un petit peu ça, pas littéralement, mais c'est un petit peu ça qu'Abraham il a ressenti aussi. Pourquoi? Si on va au verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? » Il a 99 ans, mais si vous savez, ça ne prend pas 30 secondes le temps d'être enceinte. Il sait très bien qu'il va avoir 100 ans à ce moment-là. C'est quand même qu'elle tombe enceinte tout de suite. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Vous n'êtes pas vu avoir un enfant à 65 ans, à 90 ans, non? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Seigneur, regarde, tu m'en as déjà donné un, là. Prends-lui, OK? Voyons donc, vois si je vais avoir un fils réduit à 100 ans puis Sarah, 90 ans. » Et il a fait comme nous autres, il a ri. Seigneur, là, tu me niaises. Je me garde, là. Hein? Vas-y avec Ismaël, OK? On va être content avec ça. Mais, c'est pas ça que Dieu avait en tête. C'était pas ça son plan, lui. Dieu dit « certainement, certainement ». Il réitère sa promesse. Et Dieu, il n'a jamais eu d'hésitation. Hein? « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. » Savez-vous ce qu'Isaac veut dire? Il rit. Imaginez-vous. « Tu viendrais, mon petit Abraham, tu vas l'appeler Ilri. » tu vas t'en souvenir. Hein? On a un petit Isaac, nous autres aussi, qui rit souvent. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, là, Josué était en retard. Et là, j'ai dit à un moment donné à ma femme, j'ai dit, on va l'appeler Isaac parce qu'il rit de nous autres. Hein? Elle est en retard, puis elle est en retard. Puis là, elle a aimé le nom. Finalement, je ne m'étais pas fait à l'idée tout de suite. Fait qu'on l'a appelé Josué, mais le deuxième, on l'a appelé Isaac. Puis il rit de nous autres depuis ce temps-là aussi. Ah. Mais bon, OK, c'est une autre histoire. Alors, il rit. Tu vas l'appeler « Il rit ». Alors, malgré tous ces doutes-là, Abraham, il a décidé de continuer à croire et il a fait le rite de la circoncision pour lui, pour Ismaël, puis tous les gens qui habitaient chez lui, dans le fond, tous les hommes qui habitaient chez lui. Chapitre suivant, non, c'est pas la promesse encore. Il leur visite, cette fois-ci sous forme humaine, avec deux autres anges, juste avant Sodome et Gomorre. Et là, Sarah est cachée. Puis là, il lui dit la même chose. L'année prochaine, on va revenir et ta femme va avoir un fils. Et là, c'est au tour de Sarah qui était cachée de se mettre à rire. Ouais, ils ont donc. Hé, hey, là, hein? Il y a pouce, mais pouce égal, comme on dit en québécois, hein? Je suis rendu à 90 ans, là. Va-tu avoir un fils, là? Voyons donc. Fait que elle aussi a ri. Et il lui dit la même chose. Tu vas l'appeler Isaac, ton fils. Tu vas t'en souvenir. Hein? Et là, on arrive finalement au chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel, finalement, accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Ça a été long, 25 ans. Mais il l'a fait. Il a attendu pour être sûr que ça c'est quelque chose que aucun être humain peut se dire, bien, c'est normal, c'est juste naturel. Bon. 90 ans pour Sarah, 100 ans pour Abraham. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse. Quand? Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham, ça fait 25 ans qu'il attend et qu'il est patiente. Mais ça, c'était le temps fixé par Dieu. C'était à ce moment-là que lui avait décidé. Depuis le jour où il a fait la promesse à Abraham, même avant, il savait déjà c'était quand lui, même si Abraham ne le savait pas. Comment on dit ça, Plume, non? Il est jamais en retard. Hein? Nous autres, on ne le sait pas. Dieu, lui, le sait. Il faut faire confiance. On n'a pas encore attendu 25 ans ou 100 ans, comme Abraham, pour avoir la promesse, l'exécution de la promesse. Il faut continuer à lui faire confiance. Il faut continuer à suivre. Et c'est pas facile, hein? Abraham, c'est un homme quand même assez exceptionnel. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. C'est pas quelque chose que, honnêtement, j'aurais probablement fait. Je vais être honnête avec vous autres. Ça aurait été difficile, en tout cas. Ça aurait pris la puissance de Dieu, hein? Pas à peu près. Mais Abraham l'a fait. Si je continue, Abraham donna le nom d'Isaac, comme Dieu l'avait demandé, comme Dieu l'avait prophétisé. Il l'a appelé « Il rit ». Donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. N'oubliez pas, chapitre 17, Dieu donne comme signe d'alliance la circoncision. Dès la naissance d'Isaac, 8 jours après, puis il y avait des raisons à ça bien précises, il a fait entrer Isaac dans cette alliance-là aussi. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Hein? » Elle en est consciente. Hein? « Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? » Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Tu sais, quand on dit que rien n'est impossible à Dieu, hein? C'était impossible ce qui vient de se passer là. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Puis moi, personnellement, j'aime ça, ce genre de récit-là. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais je m'imagine après ça. À tous les jours. Il rit, viens manger. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il rit aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'Isaac veut dire. Hein? À chaque jour après ça, il se faisait rappeler qu'il avait ri. Qu'il avait mis en doute, ne serait-ce qu'un petit peu, parce qu'il était quand même un grand homme de foi. Mais qui avait mis un doute à un moment donné, est-ce que Dieu va vraiment répondre? Et c'est un rappel constant chaque jour. Vous imaginez Sarah aller à quelque part, aller au marché, puis « Ah, va des amis, comment s'appelle ton fils? » »« Ah, il s'appelle Hilary. » Hein? J'imagine les points d'interrogation dans le visage des gens. Hein? Et là, il est obligé d'expliquer pourquoi il s'appelle Hilary. Beau témoignage, hein? Pourquoi qu'il s'appelle Hilary? Et on a peut-être des expériences comme ça dans notre vie. Abraham et Sarah, ils ont eu cette expérience-là. Après ça, il y avait un rappel quotidien à chaque jour. Un peu plus tard dans l'histoire, Jacob, à un moment donné, il a combattu contre un ange et il a eu la hanche atteinte. Le restant de ses jours après ça, non seulement il a changé de nom, il s'est appelé Israël, mais le restant de ses jours après ça, il boitait. Est-ce que c'est une épreuve pour Jacob? Jusqu'à un certain point, oui. Mais je suis sûr qu'à chaque fois qu'il boitait et qu'il prenait sa canne pour marcher, il se rappelait qu'il avait combattu avec Dieu. Puis comme l'ange leur dit, il était vainqueur. À chaque fois qu'eux autres appelaient Isaac, il se rappelait la fidélité de Dieu. Il se rappelait comment Dieu avait été fidèle et comment il avait douté un petit peu. Et que Dieu les a rabis sur le nez, ils ont posé ça comme ça, hein? L'humour de Dieu. Dieu a de l'humour pour moi. Hein? Ça en fait partie. Des petits clins d'œil comme ça de Dieu. Sarah pouvait bien dire, hein, quiconque va l'apprendre va rire. Quelque chose d'impossible s'est produit. Et là, on revient au passage du début, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham! » Il répondit, « Me voici. » Abraham, il reste à l'écoute de Dieu. Dieu, il a répondu, il a été fidèle. Sa foi a été certainement boostée, comme on dit en bon québécois, hein? Amplifiée. C'est ça que ça fait, l'épreuve. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Tout d'un coup, la perspective est un petit peu différente. Hein? « Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Un peu comme quand il est parti de son pays, hein? Il n'a pas dit quelle montagne. « Vas-y, on va te le dire en chemin. » Abraham y a attendu 25 ans à partir de la première fois qu'il a eu la promesse, avant d'avoir l'accomplissement. Et quelques années plus tard, On ne sait pas exactement quel âge Isaac avait, mais on suppose que c'est un jeune homme, peut-être 15 ans, 20 ans. Le Seigneur lui demande maintenant, « Tu sais, ton petit gars, là, viens me l'offrir en holocauste. » Hein? Seigneur, tu m'as donné ça pour me l'enlever? Il y en a peut-être qui ont vécu des choses comme ça. Tu m'as donné quelque chose que j'ai tellement prié pour, puis là, tu me demandes de te le redonner. Mais voyons donc. Ça marche pas. Pas nécessairement de la même façon qu'Abraham, bien sûr, mais ça peut arriver. Ce récit-là me fait toujours penser à un récit que Bianca nous compte tout le temps avec Emmanuel. Hein? Elle a prié pour, elle a prié pour, elle a prié pour. Et après ça, un coup qu'elle l'a, le Seigneur dit, maintenant, donne-moi-le. Anne, elle a fait la même chose avec Samuel. Elle a prié pour avoir un fils, puis elle a promis après ça, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. La semaine passée, Isaac s'est fait baptiser. Faites la même chose jusqu'à un certain point. OK, pas comme Abraham, bien sûr. Mais le Seigneur nous demande de lui redonner, de lui consacrer ce qu'il nous donne, de s'en servir en d'autres termes pour lui, pour sa gloire. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Moi, quand je lis ça, là, en bon québécois, on dit, tourne le couteau dans la plaie. Dès la première mention, prends ton fils, Abraham, ça va être qui parlait. Ce qu'on a sauté aussi, c'est qu'à la fin du chapitre 21, Abraham doit chasser Ismaël et sa mère, la servante Agar, pour différentes raisons. Donc, c'est pour ça, on m'a déjà posé la question, pourquoi qu'il dit son fils unique, alors qu'il y avait déjà un autre fils? C'est parce que c'est Isaac, le fils de la promesse. Ismaël, il est un petit peu ignoré, parce que justement, il était fait d'une autre façon. C'est le fils d'Abraham, mais pas le fils de Sarah. Et c'est pas lui le fils de la promesse. Donc, il est un peu ignoré, si on peut dire, dans la Bible. D'ailleurs, on ne mentionne pas Isaac, à part pour sa descendance. Donc, dès qu'il dit son fils, Abraham savait de qui il parlait. Ton unique, on sait de qui qu'on parle encore, celui que tu aimes. Et si c'est pas assez précis, il nomme Isaac. Puis va l'offrir en holocauste. L'holocauste, de mémoire, c'est le seul de tous les sacrifices qu'il y avait dans l'Ancien Testament qui était un sacrifice entièrement consumé par le feu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la plupart des sacrifices, les prêtres ou les gens qui ont fait des sacrifices, retenaient une partie pour se nourrir, etc., pour faire différentes choses avec. Mais celui-là, non. C'est un sacrifice complet. Il ne gardait rien. Tout était brûlé. Ça nous dit quoi, ça? C'est un sacrifice de consécration. Dieu le voulait au complet. Et c'est la même chose avec nous autres. Il ne veut pas qu'on garde une petite partie. Il veut nous avoir au complet. Il veut un sacrifice complet. La tête, le cœur, tout vient avec. La graisse aussi, mais bon. Tout vient avec. Il veut tout avoir. C'est ce qu'il dit dans Romains. Romains 12, 1. Je vous exhorte, si vous préférez, à courage. Donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il veut qu'on s'offre un sacrifice complet. Pas qu'on garde un petit morceau pour nous autres ou un petit morceau pour les autres. Il veut nous avoir au complet. En passant, s'il nous demande ça, c'est parce qu'il l'a fait lui-même. Hein? C'est sûr que ce que Dieu a demandé à Abraham, ce serait impensable en 2026. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, ce n'était pas quelque chose qui était, je ne dirais peut-être pas courant, Mais ce n'était pas quelque chose qui était inconnu. Ça arrivait souvent dans les cultures païennes qu'on sacrifiait des enfants, qu'on sacrifiait nos fils pour adorer le Moloch, entre autres, si vous avez ceux qui ont lu l'Ancien Testament. La vallée de Hinnom, qui est une image de l'enfer, on faisait passer des enfants à travers le feu dans ça. Donc, c'était pas quelque chose qui était, disons, aussi drastique qu'on verra aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, ce serait impensable. À ce moment-là, les autres dieux te demandaient. Abraham, sans connaître tout de Dieu, il ne savait peut-être pas si Dieu demandait la même chose, tout simplement. Donc, il obéit. Ce qui est important, surtout, c'est de se rappeler pourquoi Dieu a demandé un holocauste. Il voulait au complet, comme je vous disais tantôt. Donc, verset 3. « Abraham se leva de bon matin. » Moi, quand je dis ça, ça peut vouloir dire deux choses. Première chose, ou bien il était pressé de le faire. Il avait hâte. Ou, ce que moi, en tout cas, si j'arrêtais à sa place, il n'a pas dormi de la nuit. En tout cas, moi, ça serait ça. Dieu me demande de faire ça, d'aller sacrifier mon fils, que j'ai attendu pendant 25 ans en plus. Pas sûr que j'aurais dormi. Fait qu'il se lève de bon matin. Il doit y avoir des affaires qui se passaient dans sa tête, hein? C'était un paquet de questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Comment ça se fait ça? Premièrement, j'ai attendu 25 ans, puis tu me le donnes. Comment tu peux me le demander à cette heure? Seigneur, tu m'as promis une descendance. Si je le tue, c'est assez difficile d'en avoir une. On retourne au point de départ. Tu vas-tu m'en donner un autre ou quoi? On va l'appeler Ilvi, celle-là, à la place de Ilvi. Moment donné, hein? On se pose des questions. Abraham s'en posait peut-être. C'est pas écrit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il obéit. Une chose qui c'est importante, en tout cas, c'est que ça faisait peut-être 15-20 ans qu'il l'appelait Ilri. Et il ne voulait pas que ça arrive encore. Ce que je veux dire par là, il a appris que, malgré toutes les circonstances, malgré tout ce qui avait de la bizarre, Dieu est fidèle à ses promesses. J'ai douté une fois, je n'en douterai plus encore. Donc, Abraham obéit. La seule chose qu'on sait vraiment de ce qui se passait dans la tête d'Abraham, si on peut dire ça comme ça, c'est ce qu'Hébreu nous dit. Hébreu 11, 17. Romains, non, c'est une petite erreur, c'est Hébreu. Désolé. Hébreu 11, 17, 18, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu des promesses, promesses d'une descendance et tout ça, et qui elle avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Il n'avait pas vu de résurrection à l'époque en passant. Hein? Donc, il ne savait pas ce qui était pour se passer. Il savait que Dieu est assez puissant pour faire ce qu'il veut, peut-être même ressusciter. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Il ne savait pas ce qui était pour passer, mais il savait une chose. Dieu a promis. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Et je l'ai vécu. Je n'en douterai plus maintenant. Donc, il obéit. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour préparer l'holocauste. Il commence à préparer les choses pour le sacrifice. Mettez-vous dans la peau d'Abraham encore, là. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le troisième jour. Le troisième jour. Ça fait trois jours qu'il marche. Elle ne sait pas s'il s'est posé des questions pendant la nuit, mais chose certaine, il a eu le temps 3 jours de marcher avec son fils et de s'en poser des questions. Il sait que c'est peut-être, en tout cas, on ne sait pas comment ça se passait, comme ça dit, parce que Abraham avait confiance en Dieu. Mais s'il disait que c'était les derniers jours qu'il passait avec lui, il devait s'en passer des choses dans sa tête. Soit ça, ou soit complètement le contraire, il avait tellement confiance en Dieu que pour lui, c'était discussion normale. Je ne sais pas. On va poser la question au ciel. 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Autrement dit, ils sont restés au pied de la montagne. Et Abraham est monté seul avec Isaac. « Moi et le jeune homme, » donc c'est pas un enfant, le terme qui est utilisé là, comme je vous disais, on pense que c'était peut-être 20 ans, je ne sais pas. « Nous irons jusque-là pour adorer, et quoi? Nous reviendrons auprès de vous. » Ou bien Abraham était hypocrite, ou bien Abraham était confiant. Moi, il allait être le 2e. On va revenir auprès de vous. Abraham savait ce que ça allait faire. Ça ne va pas le résultat, par exemple. Mais il savait une chose, Dieu avait promis. Donc, on va revenir auprès de vous. Il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Une chose qu'il savait, comme je vous ai dit, c'est qu'il avait douté déjà. Et comme nous autres, comme pour Abraham, nous autres aussi, dans notre vie, les épreuves ont un but. Nous faire grandir. Nous approcher de Dieu. On ne commence pas tout de suite avec des épreuves gigantesques. Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Père. Petit à petit, oups. Comme un enfant qui va maternelle, première année, 2e année, il apprend à compter, il n'apprend pas tout de suite l'algèbre. Donc, tranquillement, d'une étape à l'autre, oups, passe des tests, monte en 2e année, apprend d'autres choses, passe un test, monte en 3e année, s'il réussit le test. Bien, c'est la même chose avec Dieu, les épreuves. Le but, c'est de nous rapprocher de lui toujours, c'est de nous faire grandir toujours, c'est de se révéler au travers des épreuves pour qu'on apprenne à lui faire toujours de plus en plus confiance et se rapprocher de lui, le connaître d'une façon spéciale. Donc, c'est la même chose dans ce cas-ci. Il va expérimenter la relation avec Dieu. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Son fils qui était pour être lui-même l'Holocauste, c'est lui qui va transporter le bois. Ça ne fait pas penser quelque chose, ça? Jésus qui porte sa croix. Il le chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc, ils montent ensemble. Et là, à un moment donné, Isaac commence à faire le calcul un petit peu. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père, » répondit, « Me voici, mon fils. » Toujours disponible, Abraham. Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Si tu veux faire un Holocauste, probablement qu'Abraham y avait déjà dit que c'est dans la fin d'un Holocauste, il manque quelque chose. Il manque l'offrande. Qu'est-ce qu'on va offrir comme offrande? Quel agneau qu'on va offrir? Et Abraham de répondre, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » C'était certainement pas la question qu'il voulait entendre. Se faire poser la question par son propre fils, puis qu'il doit lui répondre, ça prenait soit un gars bien hypocrite, soit un gars bien confiant. Encore une fois, j'opte pour la 2e. Il a vu Dieu agir, il fait confiance. Encore une fois, il ne sait toujours pas comment. Dieu n'a pas révélé ça. Mais il fait confiance en Dieu. Ça prenait une foi, hein? Et ils ont continué à marcher. Isaac ne comprenait pas l'eau non plus. OK, bon. Continue à marcher. Il n'a pas viré de bord, il n'a pas fait une crise. Et verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Et certainement qu'Isaac l'aidait. À faire son propre sacrifice, on peut dire ça comme ça. L'instrument qui était pour le torturer, entre guillemets. Et il rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Si Isaac n'avait pas compris avant, c'est sûr qu'à ce moment-là, il a compris hein, ce qui se passait. Un coup que tu as fait l'autel, ton père t'attache et te met sur l'autel. T'as des indices, oui. Réfléchissez un petit peu, là. Isaac était un jeune homme. 20 ans? 25 ans? Je ne sais pas. Abraham était un vieillard. On s'entend-tu que si Isaac aurait voulu, il aurait pu se défendre assez bien puis s'en sortir? Isaac il a donc accepté volontairement ce qui se passait, en silence. Il avait appris de son père, sans doute, qui était Dieu et tout ça. Et il a accepté la situation. Il s'est soumis. Encore une fois, ça fait penser à d'autres situations hein, qu'on va parler après. Il a accepté son sort, on peut dire ça comme ça. Et là, le fameux moment fatidique arrive, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » Abraham, prends ton fils et va me l'offrir en holocauste. Abraham se lève, part, il fait. 3 jours de marche. Seigneur, vas-tu faire de quoi? Il va-tu me dire d'arrêter? Il va-tu? Non. On arrive à la montagne, on monte la montagne. Le Seigneur intervient toujours pas. OK, bâti l'autel, on attache le fils, on le met dessus, le Seigneur, toujours pas. Bon, la prochaine étape, on prend le couteau puis on exécute. Le Seigneur attend des fois la dernière minute. Hein? Il veut s'assurer qu'on va jusqu'au bout, qu'on obéit. Et il attend la dernière minute. Il n'a pas permis qu'il tue. Il aurait pu le ressusciter. Abraham, il aurait été prêt à obéir jusque-là. Il n'a pas permis. Heureusement, Dieu ne se plaît pas à ce qu'on fasse des sacrifices comme ça. Mais il a quand même attendu la dernière minute. Il a attendu la dernière minute. Abraham, comme d'habitude, toujours disponible. Abraham, Dieu l'appelle tout de suite. Me voici. Je suis disponible. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Je sais maintenant. Attends un petit peu, là. Dieu, il n'est pas omniscient. Il savait déjà. Comment ça, je sais maintenant? Tu viens pas juste de l'apprendre quand même, là? Il fallait-tu vraiment qu'il passe à travers tout ça pour que Dieu le sache? Non, Dieu le savait. Mais je pense qu'Abraham avait besoin de le savoir. Abraham avait besoin de le démontrer. N'oubliez pas que dans la Bible, savoir, connaître, ça a une connotation d'expérimenter. Dieu ne veut pas juste le savoir. Il sait déjà les circonstances qu'on vit. Il sait déjà ce qui se passe dans notre cœur. Mais il veut qu'on lui dise pareil. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de nous autres d'avoir un changement, d'avoir nous autres de changer notre attitude, nous autres d'aller vers lui. Même chose ici pour Abraham, certainement. Si pendant les 3 jours de marche, Dieu lui aurait dit, « OK, c'est correct, vis d'abord. » certainement que ça n'aura pas le même impact pour le restant de ses jours, à lui et à Isaac. Dieu voulait le faire passer par là. Dieu le savait qu'il était pour le faire, mais il y avait des leçons à apprendre. Abraham avait des leçons à apprendre, nous autres, qui lisons le récit-là ce matin, on a des leçons à apprendre aussi. Le récit continue. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jéré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parce que c'est ce que ça veut dire, Yahvé Jéré, l'Éternel pourvoira. L'Éternel a pourvu. Qu'est-ce qu'Abraham avait dit en montant sur la montagne à son fils? L'Éternel va pourvoir. Et l'Éternel a pourvu. Abraham y a appris par les épreuves, par tout ce qu'il avait vécu, à faire confiance à Dieu. Dieu a honoré cette confiance-là. Il a fait confiance aussi qu'il était pour pouvoir, il a pourvu. Mais c'est une leçon pour nous autres aussi, à travers tout ça. Pourquoi? On pense que la montagne, en passant en question, c'est la montagne où le temple a été bâti, des années plus tard. Parce qu'il y a eu des sacrifices qui étaient faits là par le peuple de Dieu. Et toute cette histoire-là, dans le fond, c'est pour vous parler d'un autre Père, Dieu lui-même. Parce que sous tout ce récit-là, c'est une image de ce que Dieu a fait. Isaac parlait la semaine passée. Bon, Isaac, à moi. Il parlait la semaine passée dans son témoignage qu'il avait vu une vidéo, puis que ça, même si ça faisait longtemps, puis plusieurs fois qu'il avait entendu, il a été touché de voir l'amour de Dieu, de voir le sacrifice de Jésus, la souffrance qu'il y a eu. Et ça, ça m'a touché beaucoup. Parce que il m'avait dit qu'il avait vu des vidéos, mais je pense que j'en avais parlé avec ma femme aussi. J'étais convaincu, puis elle aussi, je pense, qui c'était des vidéos de la fin des temps qu'il parlait. Parce qu'il aime bien ça de garder ça, les vidéos de la fin des temps, puis tout ça, les prophéties. Puis il me posait des questions là-dessus. Fait que j'étais convaincu que c'était des vidéos de ça qu'il avait vues. Et j'ai été surpris, j'ai appris en même temps que vous autres, que c'était des vidéos sur la souffrance de Jésus, et c'est ça qui l'a touché. Et c'est ça qui devrait nous toucher, nous autres aussi. Aujourd'hui, à chaque jour. La souffrance qu'il y a eu. Parce que oui, l'Éternel a pourvu. Dieu, c'est un Père. Dieu avait un fils unique aussi. Et ce n'était pas plus facile pour lui que c'était facile pour Abraham. Ce n'était pas plus facile pour Jésus que c'était facile pour Isaac. Mais comme Isaac, il s'est soumis sans dire un mot. Hein? Ce que la Bible dit dans Isaïe, il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est ça que Jésus a fait aussi. Il s'est soumis. Il ne s'est pas obstiné. C'est ça que ça veut dire un peu, hein? Il ne s'est pas rebellé. Il s'est soumis volontairement aux maltraitances, aux souffrances. Et ça, c'est pour nous autres qu'il a fait ça. Comme Abraham, Dieu a dû sacrifier son fils. Contrairement à Isaac, Jésus, lui, a dû aller jusqu'au bout. Il n'y a pas personne qui l'a sauvé à la dernière minute et disait « OK, pas besoin de mourir ». Il est allé jusqu'au bout, lui, parce que c'était lui, l'agneau, que Dieu a pourvu. C'était lui, le sacrifice. Donc, lui, il était jusqu'au bout. Malgré la souffrance, malgré que dans le jardin de Gethsémané, il y a eu des gouttes de sang qui tombaient tellement qu'il était souffrant. Malgré que sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Bon, j'avais mis ici, moi. Ça a été la seule fois de toute son existence qu'il était séparé de Dieu. Ça, c'était la plus grande souffrance qu'il pouvait avoir. Oui, il y avait une souffrance physique, mais la souffrance morale. Quand on est en train de souffrir, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est nos proches. Hein? D'avoir l'attention, d'avoir de l'amour de nos proches. Et là, à ce moment-là, il ne l'a pas eu. Il a été rejeté de son propre père à cause du péché qu'il portait. Et Dieu, il a fait tout ça, c'est même écrit dans Isaïe qu'il s'est le plus de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui s'en est après. Dieu, il a pris son Fils unique pour pouvoir avoir d'autres enfants après ça, nous adopter nous autres. Il a fait ça pour nous. Nous racheter, pour que nous soyons adoptés, et qu'on puisse dire, comme Paul l'a dit dans Romains, « Abba, Père ». Parce qu'on était orphelins, on était sans Dieu. Et maintenant, si on l'accepte, on peut être racheté, on peut être adopté dans la famille de Dieu. Au même niveau, traité au même niveau que Jésus lui-même. C'est pour nous autres qu'il a fait ça. Je vais terminer ce matin avec un verset, 1 Jean 3:1. Très beau verset pour la fête des pères. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, ou démontré, si vous préférez, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Remémorez-vous, à chaque fois que vous pensez à Jésus, toute la souffrance qu'il y a eu, les évangiles le décrivent. Remémorez-vous l'histoire d'Abraham avec Isaac ce matin. Le fils de la promesse qui a été jusqu'au bout, qui a été accepté d'être sacrifié. Et tout ça juste pour nous autres. Tu n'es pas obligé de faire ça. Il a pu rester la Trinité seule, avec les anges et tout ça, puis pas besoin de nous autres, là. C'est un choix qui est fait par amour. Rien d'autre que ça. Bonne fête des pères, bonne fête à notre Papa Céleste surtout, qui nous a rachetés, puis à Jésus-Christ. Nous avoir accueillis dans la famille. Amen. Invitez le groupe de louanges pour le dernier chant.